Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 169. Mon nom est Paul Andriot et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante. C'est-tu l'avant-dernier podcast de l'année? On va peut-être faire un petit dernier podcast rétrospective 2017, j'imagine, Paul? C'est quoi le plan, là?
Oui, ben c'est ça. Donc l'avant-dernier de l'année, j'imagine, effectivement. Mais avant de rentrer dans le podcast et de parler des critiques des films, Pascal, on a quelque chose de très important à parler, qu'on veut souligner. D'un truc qui nous tient vraiment à cœur, en fait, qu'on est très fiers. On parle, bien sûr, d'Occupation Double.
Oh my god! Hey, c'est drôle,
je le sentais venir.
Quel trolling! Impossible! Mais non, mais attendez,
comment ça que Pascal Plante? Pascal Plante, l'un des cinéphiles les plus aguerris que je connais.
Non, puis tu sais, passer des gros films d'auteur bien lourds à Occupation Double, tu sais.
Parce ouais, que là, si je comprends bien, Pascal, toi, t'as écouté toutes les émissions de la saison en cours, là.
Hey, puis on peut-tu. Je sais qu'on a des auditeurs aussi qui sont pas du Québec. Puis je pense à eux, puis j'aimerais ça juste qu'on explique c'est quoi, en une phrase, Occupation Double.
Jeu de séduction, ils matchent les gars, ils matchent les filles dans deux maisons, ils les font voyager une fois de temps en temps, puis au final, tu peux gagner une maison, puis de l'argent.
Le concept existe ailleurs, le Love Story aussi, c'est un peu la même chose. Puis,
Ouais, c'est un peu la même chose, là, c'est ça, c'est tout un peu la même affaire, mais l'affaire avec ça, là, les gars, là, c'est vraiment, en fait, surtout cette année, ok, parce que, bon, un peu de backstory, avant que je commence à faire une...
J'ai l'impression qu'on est là pour... ben écoutez, je pense qu'on va juste parler de ça du podcast, fait que si ça vous intéresse
on a déjà des films brillants à jaser, là, genre, en tout cas, mais on peut quand même parler d'Occupation Double pendant un certain temps, moi ça me dérange pas. bon, alors, j'ai une raison pour écouter Occupation Double, les amis. C'est parce que, en fait, un de mes super bons amis fait le show. Mais il y a un backstory même à ça, à pourquoi il a fait les auditions puis il a embarqué là-dedans. C'est mon ami Pascal Hugo, en fait, PH, parfait. Pour ceux qui connaîtraient
Occupation Double.
Et c'est parce que moi, j'ai nagé pour le Rouge et Or Natation à l'Université Laval, mon petit frère aussi. Puis PH, en fait, c'était un des nageurs qui est, il est 2 ans plus jeune que moi, là, mais bon. C'est le meilleur ami de mon petit frère, mais par extension, vraiment, ben, depuis que je vis ma vie d'adulte, c'est vraiment un de mes super bons amis, à moi aussi. Et c'était un pari que mon petit frère lui a lancé. Il a dit « Hey, man, t'es pas en couple. » Il dit « Il me semble, là, t'sais, le gars, il étudie en littérature, il fait son maîtrise en littérature, il vient de finir sa carrière de nageur, une carrière, t'sais, que lui, il était payé à nager. » C'était ça, sa job, en fait, pendant plusieurs années. Et là, fait que là, il a fait « Hey, non, là, je pourrais pas faire l'éducation double. Ben oui, pousse-le. » Fait que là, il est allé faire les auditions, il a été pris. Donc là, mon frère gagne 200$, en fait, parce que le pari, c'était « Je suis sûr que tu vas être pris, puis si t'es pris, tu me donnes 200$. » Puis il a fait « OK. » Fait que là, PH, toi, 200$ à mon frère. Mais là, j'ai comme fait « OK, bon, PH, occupation double. » Là, je suis comme « Premièrement, faut que tu fasses attention à ta boisson, là, parce qu'ils sont tout le temps sous hein, dans ces émissions-là. Hein. C'est ça qu'il faut jamais oublier, hein, guys. Les téléréalités, OK, qui sont braquées sur le vide, ils saoulent les candidats. C'est ça, là.
Fait que PH était sous, ça me rappelle un film, là, mais en tout cas,
C'est ça, c'est que dans mon pseudo-documentaire La Génération Porn, que ceux auraient peut-être vu, c'est une rareté, hein, qui avait joué au FNC en 2014, PH était dans une des scènes, puis aussi, il était backstage, là, il avait aidé de façon... c'était un genre d'assistant de prod, là, à droite, à gauche, ici, quand
il fallait. Il a parlé de porn, on va dire ça de même.
Ouais, c'est ça. Donc, mais ça, c'est ça qui est drôle, c'est que les recherchistes, ils ont pas trouvé sa scène dans Génération Porn, ça aurait été bon que ça ressorte là, comme ça.
À moins qu'ils gardent des cartes dans leur manche pour la finale. Parce que là, il reste quoi? Il reste un épisode, c'est ça?
Ben, il reste... c'est dimanche prochain que ça finit. Fait que là, ça fait 3 mois, OK? Au début, j'étais comme, ben non, là, j'écouterai pas les quotidiennes. Je vais juste écouter les dimanches. Puis c'est ce que j'ai fait les 2 premières semaines. Puis à un moment donné, je suis comme, ah, écoutons, je vais l'écouter le lundi aussi. Puis peut-être le mardi. Fait que là, Chris, je l'écoute lundi, mardi, mercredi, les quotidiennes, puis je l'écoute le dimanche, ça fait 3 mois, là, et là, il est temps que ça finisse. Fait que,
combien d'heures de film tu t'es bloqué en écoutant Occupation Double? Est-ce que t'as compté? Mettons qu'un film, en général, c'est 2 heures, là, combien de films t'as pas écouté parce que t'as écouté Occupation Double?
C'est ça le problème, c'est ça le problème. C'est vraiment taré. Puis en plus, j'ai écouté Big Little Lies, j'en ai parlé la dernière fois que j'étais au podcast, parce que c'était pas le dernier vous l'avez fait à deux, sans moi, les gars, mais fait que j'ai écouté même des séries télé. Où va le monde? Cette année, c'est une drôle d'année, j'ai pas été très discipliné. Fait que, mais j'ai écouté Occupation Double, si vous voulez, on peut en parler en détail. Mais parlons-en quand même un tout petit peu, OK? Parce que
mais vraiment... Parce qu'il n'y a pas juste été pris dans l'émission, là, c'est ça, c'est que là, il s'en va en finale.
Fait, il va en finale là, du show.
Qu'est-ce qu'il peut gagner, là, à part trouver l'âme sœur? Là, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là?
Ben, genre une maison, là. Genre, il a gagné une maison.
La production fournit une maison. Il a déjà gagné ou non?
Il va non, peut-être non, il n'a pas gagné encore, ça. Mais le Québec l'aime bien, là. En tout cas, on verra, là, on verra. Fait que, prochain podcast, je vais savoir si mon ami PH a une nouvelle maison dans le coin de 30. Hey, puis tu sais pas quoi, Paul? Chris, on est dans les insides.
Quoi?
La maison là, du gagnant de Passion 2 est à côté du pont couvert, là où tu t'es marié.
Ah, ah oui, fait c'est que, vrai.
Ben, c'est un beau coin.
Ouais. C'est vrai, les demoiselles d'honneur à ton mariage, je voulais aller prendre des photos en avant, Paul.
Ouais. Ouais.
On salue Delphine Larose.
On salue Delphine Larose. Donc, tout est connecté. C'est ça.
Tout est dans tout.
Mais honnêtement, là, OK, ces candidats-là, ils sont privés de toute stimulation intellectuelle. OK, tu sais, lui, PH, fait son mémoire en littérature. C'est un gars lettré, justement. C'est assez rare dans ce genre de show-là, déjà. Et il peut pas, genre, écrire. Il a pas accès aux journaux. Il est complètement déconnecté du monde extérieur. Puis... honnêtement, cette année, là, la production est particulièrement brutale. Là. Genre, tout le drama qu'ils peuvent presser, là, le citron, là, c'est vraiment... Il y a du bullying là, à un niveau que j'ai jamais vu. C'est vraiment malsain, en fait. Je pense que je vais employer ce mot-là. Je trouve que c'est vraiment malsain. Pour le petit plaisir voyeur de 1,5 million de Québécois, il y a vraiment des moves de production qui sont très éthiquement questionnables. Ouais, je vais en laisser là. C'est vraiment comme l'expérience de 1000 grammes, là. C'est vraiment...
c'est quand même fou, hein? 1,5 million de Québécois, là. C'est tellement beaucoup, là. Tu sais, c'est comme une personne sur cinq dans la société écoute ça, puis... Tu sais, comme tu me parles de ça, puis j'ai aucune idée. Tu sais, genre, je connais le concept, puis j'ai déjà écouté un peu une fois ou deux, tu sais, mais... Mais je suis comme, c'est qui ces gens-là? Je les connais pas.
Je sais, peut-être man.
Peut-être que j'en connais, finalement. Peut-être qu'autour de moi, il y en a plein, tu sais, qui écoutent ça, mais...
Il y a moi. Il y a 1,5 million plus un, là. Fait que c'est ça. Écoute, ce sera le segment d'intro de ce podcast-ci, mais procédons. Mais oui, c'est effectivement plus de gens qui regardent ça que de gens qui vont avoir vu, mettons, The Florida Project à la fin de l'année, si on s'entend. Et c'est un peu désolant, mais...
Moi, je veux juste te dire, Paul, je veux juste que tu mettes Occupation Double dans le titre du podcast, là. Tu mets toujours ce qu'on regarde. Je te jure qu'on va avoir des clics, man. Genre, il y a des gens là, qui doivent nous écouter présentement et qui font « Fuck, c'est un podcast de cinéma, on parle pas, pas tout d'Occupation Double. Les deux autres gars, ils savent pas du tout de quoi ils parlent. »
Ouais, mais c'est bon, on va leurrer les nouveaux fans là, dans des reviews de films intellectuels. C'est parfait. Ouais. C'est parfait.
On espère que vous allez aimer ça, tout le monde, les nouveaux auditeurs.
C'est vraiment la meilleure stratégie pour fidéliser une audience.
Exactement.
Mais Pascal, 1,5 million de spectateurs, là, c'est quand même un gros chiffre, c'est énorme là, par semaine en plus. Là. Mais c'est pas autant de spectateurs que de spectateurs qui ont écouté un court-métrage à plein écran cette année.
Oh!
Parce que, on en parlait au dernier podcast, c'est drôle hein, parce que ça va tellement vite. Là, au dernier podcast, on était en ouverture la première journée. J'ai publié le podcast comme 3-4 jours plus tard parce que j'avais pas le temps partout. Là, c'est déjà fini. Puis je m'en suis comme pas rendu compte.
Ouais.
Et pour résumer brièvement, parce que je suis un peu mal à l'aise ça, de parler de ça, là, gros conflit d'intérêt, mais c'est quand même un très beau projet auquel je suis très fier de participer. C'est, mais rapidement, mais c'est ça, c'est donc plus de 4 millions de spectateurs au total qui ont écouté un court-métrage québécois dans le monde, dans comme des dizaines et des dizaines de pays. Et bon, évidemment, tu sais, faut en prendre puis en laisser. Là. C'est pas comme c'est un peu comme les groupes de musique qui annoncent qu'ils ont fait 100 millions de streaming Spotify. Ça n'a pas la même valeur que, mettons, acheter un album physique. Là.
Fait
que, faut pas non plus avoir la grosse tête. Mais quand même, c'est le fun. C'est un beau projet. Une belle deuxième édition. C'est le cours Ruby Pleine de Marde qui a gagné le Grand Prix Plein Écran.
Oh yeah! Moi, je suis vraiment fan de ce film-là.
Et on avait une petite annonce aussi à la fin. En fait, on a annoncé que Plein Écran s'en va également en salle.
Oui.
Donc, dès janvier, en fait, dès quelques semaines, il va y avoir des courts-métrages au cinéma du Parc et Beaubien avant les longs-métrages. C'est vraiment, dans le fond, ça ne sera pas tous les films qui jouent au Beaubien et au Parc. En fait, c'est deux par... c'est aux deux semaines, en fait, qu'on va jumeler un court-métrage avec un film spécifique. Donc, on va essayer, évidemment, de faire un peu des correspondances, puis de mettre, mettons, un truc d'horreur avec un film d'horreur, et, etc., etc., là, pour pas mettre un film d'horreur avant un film d'animation. Là. Donc, et ce n'est que le début, en fait, mais on est très content de ça. Et puis, si éventuellement on peut justement promouvoir le cinéma de cette façon, ben nous, on est très content de pouvoir mettre des cours. Tu sais, c'est souvent aussi la relève, les jeunes cinéastes, tu sais, que ça leur donne un très bon coup de main d'avoir leur film en salle. Fait que je ne pourrais être plus content et satisfait de tout ça.
Ah oui, Ruby Bellemare d'avoir un film de Noël, là, ça serait bon, ça, justement.
Ben oui, ben oui.
C'est un film de Noël. C'est vraiment drôle, en plus, là, genre, hier, en écoutant la dite série, tu sais, parce que là, maintenant, j'écoute de la publicité, comme tout le monde, tu sais, comme chaque bon auditeur. Il y avait une pub de métro, tu sais, de l'épicerie métro de Noël, avec, genre, la même esthétique que Ruby pleine de marde. Fait que, tu sais, la pastiche, là, tu sais, le petit côté kitsch, tous les beaux décors, les palettes de couleurs, la maison parfaite, la petite fille parfaite. Genre, c'est tellement à la perfection que, genre, de façon non ironique, genre, les publicités de Noël de 2017 sont sous cette même esthétique-là. Donc, bravo Jean-Guillaume Bastien. Bravo pour avoir...
Est-ce qu'on est commandité par métro puis je suis comme pas au courant, là?
Ouais.
Serait vraiment hot. Ouais. Tu sais, ils nous donnent genre 50 pièces d'épicerie par podcast, là.
Ils nous donnent plein de fontaines de santé.
Ouais, c'est
bon.
Ça.
OK, procédons. Mais oui, non, mais c'est ça.
Je te reconnais plus, Pascal.
Mais les films en salle, c'est cool. Non, là, refaisons une transition. Non, les films en salle, c'est très cool. Bravo. Bravo, Paul. Bravo, plein écran.
Voilà. sinon, on a vu aussi des films, on a vu des séries. Je sais que toi, Rémi Fréchette, t'as rattrapé finalement les deux premières saisons de Black Mirror.
Ouais. Ben, j'étais dû, là. J'avais vu la... J'ai commencé par la troisième, là, mais c'est pas trop grave parce que ceux qui connaissent la série, c'est une anthologie de... Mm-hmm. C'est des films d'horreur, science-fiction.
Souvent dystopique et très pessimiste. Là.
Ouais, exactement. Tu te sens toujours mal en finissant un épisode de Black Mirror. Mm. Puis avec des super signatures. J'ai peut-être parlé de la troisième saison déjà sur le podcast, là, mais tu sais, juste un épisode d'ouverture par Joe Wright. Ils vont quand même chercher des réalisateurs, des bonnes pointures là, pour réaliser ça. Il y a Jodie Foster qui en réalise un dans la prochaine saison. Là, ça vient d'être annoncé. Il y a la saison 4 qui s'en vient, puis c'est un peu ça, là, je voulais rattraper parce que j'avais vu la troisième qui avait été produite par Netflix, mais c'est que le concept avait été racheté parce que de base, les deux premières saisons, c'est une série british, donc Netflix avait eu les deux premières saisons par après, puis là, c'est ça, il m'en reste deux là, à regarder en fait dans la deuxième saison, mais c'est comme des petits films d'une heure environ là, par épisode.
Tu sais, je les ai pas toutes vues, mais tu sais, le pilote, là, c'est certainement... l'un des meilleurs épisodes de télé jamais fait. Là.
Ouais, puis pour vrai, là, c'est pas le meilleur épisode de Black Mirror. Il y a d'autres affaires assez insane dans cette série-là.
Pis c'est vraiment... Mais ce qu'il faut, c'est à quel point aussi ça a été proche de l'actualité. Il y a tout ce côté aussi qui est comme... qui a pas de bon sens.
Exactement.
Quel était-il, le dit pilote? C'est de quoi ça traitait?
Ben, en gros, ça le dit dès le début, puis je pense que ça peut juste mieux vendre la série. Mais c'est un policier qui reçoit un appel. Il y a une princesse qui a été kidnappée. C'est en Angleterre, là, donc ça se peut. Il y a une princesse qui a été kidnappée. Les criminels, en fait, ils obligent le premier ministre à fourrer un cochon pour libérer l'otage. C'est la prémisse. Puis, il essaie de s'en sortir. C'est pas mal
puis dans le fond, puis que ce soit télévisé, que ce soit vu par tout le monde.
Oui, c'est ça. Il faut que ça soit vu et pas truqué. Il faut que ça soit tout filmé. Puis il y a comme des instructions bien précises, là. Mais tu sais, même dans la première saison, il y a un... Tu sais, c'est des concepts de science-fiction, mais souvent, science-fiction au cinéma, c'est tout le temps un truc avec des vaisseaux spatials, puis du monde qui se tire dessus, puis tu sais, c'est la science-fiction Star Wars, là. Star Wars a comme c'était ce standard-là. Mais là, c'est comme de la bonne science-fiction qui est qu'est-ce que pourrait être la technologie dans 15 ans, mettons, ou dans 20 ans. C'est vraiment des trucs assez proches.
Un peu comme
là.
Her, peut-être?
Un peu comme ça. C'est juste que là, c'est tout le temps...
Le ton est pas du tout le même, là.
C'est ça, le ton il tombe plus dans l'horreur. Mais tu sais, là, horreur, là, je dis ça, mais c'est pas du. Il n'y a rien de gore ou de. Mais c'est des trucs qui te font sentir mal. Puis c'est. Tu sais, puis il y a un épisode dans saison 1, dans un futur proche, tu peux enregistrer tes mémoires. Tu peux te faire implanter un genre de petit disque dur. Hein. C'est tellement miniature que tu peux te le faire implanter. Puis tes yeux, ils filment tout ce que tu vois. Fait que tu peux t'emmagasiner tout ce que tu vois dans la vie dans ce petit disque dur-là.
Puis t'as
une option un peu à la genre Google Chromecast, là, parce que c'est ça qui est fou, c'est que si tout te connecte à des vraies technologies, mais tu peux en fait diffuser automatiquement sur une télé ce que t'as dans ton petit disque dur, tu sais, comme un Bluetooth qui connecte automatiquement. Fait que tu peux regarder tes mémoires, tu peux regarder tout ce que t'as vu dans ta journée ou dans les journées, faire des folders où t'entreposes tes mémoires. Puis là, en gros, la prémisse de cet épisode-là, c'est que C'est un couple qui sont dans une soirée avec, avec plein d'amis. Puis le mec, il remarque que sa femme a fait des petits regards un peu intenses avec un des gars qui est là, puis tout. Puis le gars, il devient complètement fou parce qu'il regarde la scène encore et encore de ce qu'il a vu durant la soirée. Puis il se rend compte que sa femme le trompe peut-être. Puis il réanalyse là, tous les détails. C'est vraiment, il devient là, complètement parano. Puis là, il boit de l'alcool, puis check sa télé, puis il essaie d'obliger sa femme de montrer ses mémoires à elle pour voir si c'est des trucs louches qu'elle a fait. Donc c'est vraiment intense, puis c'est comme assez crédible en fait la façon que c'est fait là. Tu t'investis assez rapidement dans ces épisodes-là. Fait que ouais, j'ai comme je suis en rattrapage de ça en ben, tu sais, j'ai pas besoin de les avoir vus, mais c'était comme en vue de me taper la quatrième saison qui va sortir l'année prochaine, là, qui ça s'annonce encore assez incroyable. Je pense que depuis que c'est passé dans les mains de Netflix aussi, on dirait que les épisodes, ils ont peut-être plus une signature chacun à la réalisation, là. La saison 3, il y a vraiment une touche bien particulière, autant au niveau de l'image, la mise en scène, la musique. T'sais, l'épisode dans saison 3, l'épisode de San Junipero, je pense que ça s'appelle, qui est comme un genre de monde virtuel à la Second Life. Puis c'est l'histoire de deux filles qui tombent en amour. Puis t'as un gros soundtrack genre de Clint Mansell de genre 50 minutes là, du Clint Mansell à côté du début à la fin. Pis c'est, tu sais, juste cet épisode-là, pis c'est, tu sais, c'est malade là. C'est un film de 50 minutes, une heure, mais pour la télé là, c'est comme, tu sais, Netflix, j'en ai parlé en plus dans le dernier épisode là, mais c'est vraiment cool là, la liberté qu'il laisse au créateur d'aller aussi loin là avec des trucs comme Master of None, puis là avec les Black Mirror où ils vont aller chercher des artistes là qui habituellement ils sont plus au cinéma, puis là ils les amènent à la télé pour faire quelque chose de complètement différent là. Mais ouais,
ça permet, je trouve, vraiment, c'est ça, c'est que trop souvent on a comme réfléchi Netflix ce que ça pouvait offrir comme en termes de binge watching, puis de pouvoir offrir mettons 12 épisodes d'un coup. Mais tu sais, peut-être que seulement ce que Netflix peut faire de meilleur, c'est justement une série comme ça anthologique où chaque épisode est genre autonome et prend le temps qu'il faut, que ce soit 35 minutes ou 75.
Exactement.
Parce que tu sais, ça fait des épisodes vraiment bons qui sont juste la durée qu'il faut. Puis tu sais, t'as pas besoin de les étirer pour que ça fasse, mettons, un 85 minutes pour pouvoir le sortir en salle, puis que ça soit comme considéré comme un feature, tu sais. Ça fait vraiment comme des épisodes solides, puis des bonnes idées, un peu comme des nouvelles. Tu sais, t'as vraiment l'impression que c'est un peu comme un recueil de nouvelles dystopiques. Puis tu parlais de Her tantôt, Pascal, mais tu sais, un truc que je trouve qu'on a tous vu là, qui se rapproche plus, c'est peut-être Ex Machina, justement.
C'est vrai.
Tu sais, la sci-fi qui te fait réfléchir aussi, un peu cérébral, puis aussi c'est tout sur comme des dilemmes moraux, puis sur justement ce que la technologie permet, mais tu sais, qu'on n'aurait peut-être pas nécessairement faire. Donc ouais, peut-être que finalement, tu sais, ce que Netflix a apporté le mieux, c'est peut-être l'anthologie plutôt que des séries à rallonge qui en finissent plus.
Ouais, puis pour vrai, le binge-watching, moi, je mets pas ça sur le dos de Netflix, mais je mets ça sur le dos des spectateurs, là. Parce que perso, j'ai vraiment attention à ça, parce que si je regarde trop en rafale, je vais oublier automatiquement. Je vais me souvenir de tu sais, des moments forts de la série, je vais me souvenir de tu sais, je sais pas, de la série en général, mais on dirait que je prends... Tu sais, tu prends pas le temps de gober ça. Tu sais, il y a quelques années, je m'étais tapé The Office américain en rafale. Je pense que j'ai écouté 7 ou 8 saisons en genre... c'était n'importe quoi, là, en genre 3-4 mois, là. Tu sais, c'est... À ma année, c'est... Puis il y a même du monde qui va encore plus vite que ça, là. Mais tu sais, je pourrais même... Ouais, ouais. J'aurais de la misère à te nommer 5 épisodes de The Office. Mais je peux te dire plein de moments, mais je les ai tellement écoutés. C'est malsain, là. Mais ça, c'est la responsabilité du spectateur. Je pense que j'ai appelé ça une responsabilité, en même temps, là, ouais. Mais tu sais, mettons, là, Stranger Things qui sortait, on me parlait au dernier podcast, mais tu sais, je me suis osé, là, j'en écoutais un ou deux par jour pour pas virer fou, puis à ma année, il y en a plus, là, aussi. Là.
Fait que c'est... Donc, en gros, ce que tu dis, Rémi, c'est que toi, t'as la bonne méthode, puis nos auditeurs qui...
Ouais, c'est ça, toutes les autres, c'est faux, puis écoutez-moi, c'est moi qui ai raison. Non, mais je pense que c'est vraiment la responsabilité. Tu sais, je peux pas mettre ça sur le dos de Netflix, parce que, pour vrai, c'est la meilleure idée, c'est de toutes les mettre en ligne, mais après ça, de toutes les écouter d'un coup, ouais, là.
Ben, tu dis ça, mais c'est pas juste une question de toutes les mettre d'un coup, c'est aussi que il y a comme plus de discipline pour, tu sais, limiter le temps des épisodes. Fait que des fois, ça peut être bon, justement, comme dans le cas de Black Mirror. Tu sais, c'est des saisons de comme 3-4 épisodes aussi. Là.
Exact. Mais les saisons de Netflix, c'est 6, par
exemple. Mais d'autres fois, tu sais, des épisodes de 1 heure, puis t'en as 12 dans une saison, puis là, c'est juste comme un arc narratif qui mène à peu près à rien. Là.
Ouais.
Ça devient un peu n'importe quoi. Là.
Ouais. Non, c'est ça, mais... Ouais, en plus, je suis en train de... J'ai jamais vu les Buffy dans la vie, là. Tu sais, c'est comme vraiment. Il me semble que c'est comme. Ça allait toujours un peu que je regarde ça m'amener dans ma vie. Je suis en train de les écouter, mais c'est comme.
C'est pas vrai que tu les as pas vus. T'en as tout le temps attrapé à droite, à gauche, comme
ça. Ouais, à Canal Famille à l'époque, tu sais, ça passait à télé. Mais tu sais, j'ai jamais écouté Buffy religieusement du début à la fin. Puis ça va comme de soi que moi, j'écoute Buffy, me semble, là, pour ceux qui me connaissent, là. Puis, mais tu sais, presque, c'est genre, je pense que c'est 7 ou 8 saisons de... La saison 1, c'est 12 épisodes, mais les autres, c'est genre 20 épisodes. C'est comme... Sérieux, là, je sais pas combien de temps je vais écouter ça, là. Surtout au rythme que je les écoute, là, c'est... J'en ai pour tellement longtemps, là. Puis toi, Paul, t'as les Supernatural à écouter, là. T'as ton ami Simon Théberge qui veut que t'écoutes ça, là. Je pense qu'il y a 12 saisons de 20 épisodes chaque, là. C'est comme... T'en as pour combien de temps, là? C'est insane, impossible. Là.
Ouais, moi, je suis pas très discipliné là-dessus. Là. J'ai même pas encore fini Twin Peaks, alors que, tu sais, je suis méga fan, puis que je veux full le finir avant la fin d'année pour...
Là, les gars, là, discipline, et on va en parler de discipline, là. Ça fait 20 minutes que le podcast a commencé, puis on n'a pas encore parlé de films. Puis, en décembre, là, la discipline, c'est de regarder les films de décembre.
Oh, que oui!
Donc, oui, effectivement, ben, c'est le mois, puis ça sort en rafale. Puis, c'est quasiment devenu un problème, parce que là, t'as l'impression vraiment que, tu sais, tous les studios, ils veulent jouer, tu sais, ils gardent toutes leurs cartes pour la fin, puis ils mettent tout ça en même temps, puis, tu sais, comme, mettons, 10 mois de l'année, on a des bons films, mais on n'a pas, mettons, les plus gros, là, tu sais. Puis là, tous les Jokers sortent en même temps, puis c'est comme... Ouais. À un moment donné, c'est en a too much, là, mais en même temps, c'est tant mieux, mais...
Puis j'ai une petite réflexion, moi, sur... Parce que là, en salle, ça n'a pas de bon sens. Il y a Three Billboards, il y a The Square, il y a Call Me By Your Name, il y a Lady Bird, il y a... Je veux dire, sont toutes là. Mais vous savez, le film que je suis le plus excité de voir en décembre...
Vas-y donc!
Phantom Thread, les gars, parce que c'est tellement mystérieux, oui, hein? On en a presque pas parlé, puis genre... Justement, Paul Thomas Anderson est devenu cette espèce de monstre-là que comme il a même plus besoin de brander son film. T'sais, tout ce qu'on a vu, je pense, c'est une coupe de photos avec Daniel Day-Lewis. Non, c'est pas vrai. Il y avait un petit peu plus de choses comme qui ont été divulguées.
Ouais, mais des articles sur comment le film a été tourné. Puis, c'est rare que tu vois un film en parlant de comme toutes les coulisses, mais de cette façon-là. Là. C'est pas les coulisses. Genre le drama entre les comédiens, mais c'est vraiment la façon que ça a été fait, le fait qu'il n'y avait pas de directeur photo crédité, puis que c'est vraiment particulier. Là.
En fait, le directeur photo, c'est que c'est Paul Thomas Anderson qui signe la photo, en fait.
Mais qu'il ne signe pas, finalement.
Ouais, c'est ça, qu'il se crédite pas. Parce qu'il n'est pas
au générique, là. Ouais.
Puis, tu sais, puis c'est drôle parce que c'est comme. Puis ça met le gaffer dans la conversation beaucoup plus. En tout cas, je trouve que la méthode de travail un peu particulière de Phantom Thread amène en avant-scène. Comme d'autres artisans du cinéma dont on parle peut-être moins souvent, je sais pas, je trouve que c'est... Il y a vraiment quelque chose de super intéressant, t'as vraiment l'impression que le film est fait, je crois humblement, mais en même temps, c'est du Paul Thomas Anderson, ça va avoir les pompes que ça va avoir, mais je sais pas, je trouve qu'il y a une façon de dérouler le tapis au compte-gouttes avec ce film-là qui... Je trouve que c'est l'inverse d'un film comme Call Me By Your Name que ça fait depuis Sundance, que tout le monde dit c'est génial, puis là, il sort en salle, puis on dirait que c'est même pas le film que je mets le premier sur mon agenda, et on dirait que je suis quasiment plus excité de voir le film que personne n'a parlé puis que personne n'a encore vu, plutôt que le film que ça fait un an qu'on se fait dire, il est bon, on va le voir. C'est vraiment curieux, tu sais, puis il y a tellement... De prix, puis de remise, puis de d'articles, puis métacritiques, puis Rotten Tomatoes, puis tout ça, puis c'est comme, à un moment donné, on dirait que t'as entendu parler des films tellement longtemps que moi, à un moment donné, est-ce que ça se peut qu'on franchisse une ligne? Moi, il y a certains films qui ont eu un effet quasiment trop plein, puis je les ai même pas encore vus, tu sais.
Mais ouais, Phantom Thread... Tout à fait.
Moi, j'ai manqué son dernier, à moi, Paul Thomas Anderson, j'ai jamais vu son...
Inherent Vice?
Ouais, Inherent Vice, je l'ai même pas vu, ce film-là.
C'est curieux, man.
C'est ça. C'est sûr que j'entendais en général, mais
ça m'est tellement resté en tête, là. C'est vraiment une curiosité. C'est vraiment pas un mauvais film, là, à tout le moins, là. Ça vaut définitivement le détour, à mon sens. Mais donc, bref, oui, en décembre, il y a tous ces films-là que ça fait un an qu'on se fait dire qu'ils sont bons, puis Phantom Thread, donc ça...
Puis Disaster Artist, tu sais.
Puis Disaster Artist. seems to me like you're an expert, Mark. Bon.
Okay. Hey, Dougie. Mais va falloir que tu t'armes de patience parce que c'est 12 janvier au Québec.
Ouais, je sais.
Donc, voilà. Mais parlant des gros films de décembre, Pascal, qui nous remet sur la route après nous avoir fait d'abord chavirer par Occupation Double.
Ben là.
J'ai vu, donc, un film d'un maître, on peut dire, hein, du cinéma américain. Certainement. The Post de Steven Spielberg.
Je suis curieux d'en entendre parler.
Vraiment, tu sais, dans la catégorie film qui vise des Oscars, on peut pas faire projet plus.
My God!
Plus de prestige, comme.
Tom Hanks et Meryl Streep dans un film de Steven Spielberg. C'est comme, ok, ouais. Bon.
Sur une histoire vraie à propos de journalistes qui se battent contre le gouvernement.
Est-ce que de la musique de John Williams dedans, juste pour une autre nomination? Oui, bon, puis, parfait. Ça, c'est
puis
fait.
C'est Janusz Kaminski ou.
Ouais, c'est ça, oui, le directeur photo attitré, ouais, finalement.
C'est ça, qui fait encore la photo de ce film-là. donc, The Post. The Post, c'est vraiment un projet étrange, parce que ça fait à peine 9 mois que Spielberg a lu le scénario, en fait. C'est vraiment un film qui est fait dans l'urgence.
Comme ça sort de nulle part, un peu. Hein?
Ça sort un peu de nulle part. On en jasait déjà de toi et moi, Rémi. Il y a son gros film, le Ready Player One, un gros film d'effets spéciaux grand public qui sort dans quelques mois. Et ça fait vraiment pas longtemps qu'on a même appris l'existence de The Post. Tu sais, c'est un peu sorti de nulle part, la bande-annonce. Et donc, c'est ça. Ce film, ça se passe dans les années 70 et c'est sur ce qu'ils ont appelé l'affaire les Pentagon Papers. Et donc, évidemment, bon, c'est une histoire vraie. Donc, si vous voulez un peu lire sur cette histoire-là ou si vous savez un peu déjà c'est quoi, c'est pas vraiment un film, tu sais, à punch, là. Mais, tu sais, c'est une enquête qui s'est déroulée sur plusieurs années. Et qui, en fait, c'est des journalistes du New York Post, du New York Times, dis-je bien, et du Washington Post, qui ont donc révélé que le gouvernement a menti pendant des années, notamment sur l'état du combat au Vietnam, tu sais, parce que, dans le fond, ça allait beaucoup plus mal que ce que le gouvernement disait. Et ce qui a mené éventuellement par la bande, tu sais, au scandale de Watergate, puis de Nixon, de la démission de Nixon et tout ça. Donc, c'est un peu comme Titanic, là, on connaît un peu déjà la fin. Donc, il y a ça qui joue dans notre appréciation du film, dans notre lecture. C'est clair que c'est un gros show d'acteurs. Là, c'est un peu comme... si vous avez vu Spotlight, là, c'est pas mal similaire, ouais, dans ça. L'approche. Un casting all-star qui n'a pas vraiment de faute de goût. Même si, moi, je dois avouer que le personnage de Meryl Streep m'a un peu agacé. Oh, et oui. Là, je dis bien le personnage et non sa performance, mais c'est plutôt la manière que c'est écrit. Je trouve ça très limité, en fait. Puis Streep, elle fait un peu ce qu'elle peut. Mais, tu sais, donc, elle, c'est la propriétaire du Washington Post qui l'a hérité après que son mari soit mort. Et c'est un peu la femme qui a le pouvoir à une époque où personne vraiment... Tu sais, c'est très misogyne, puis c'est très, tu sais... des hommes riches qui sont obligés de dealer avec elle parce que c'est comme la veuve de lui qui était là avant. Et Tom Hanks, c'est comme son éditeur des nouvelles en chef, qui, lui, tu sais, dans le fond, c'est comme un brave journaliste qui veut vraiment travailler sur cette histoire, tu sais, qu'on entend dans... Il y a des rumeurs, puis le gouvernement veut effacer l'affaire, tout ça. Donc, une espèce de duel de titans, tu sais, les deux jouent dans la même équipe, finalement. Mais c'est cette espèce de film-là où vraiment c'est les acteurs qui ont le devant. Un peu comme un Lincoln, justement, de Spielberg, qui est beaucoup plus une espèce de, de showroom pour tous ces grands acteurs.
Ouais, puis tu dis Spotlight, mais tu sais aussi All the President's Men aussi, qui était un show d'acteurs, on veut pas. Puis je pense que rapidement, on a un parallèle à faire. Là. Je sais pas comment ils se comparent.
Ben, c'est ça un peu le problème. C'est que là, la comparaison, ça blesse un peu parce que tu sais. Moi, je considère personnellement que All the President's Men, c'est un des plus grands films américains de tous les temps. Et il y a vraiment des plans qui sont comme pris exactement. Tu sais, évidemment, c'est sur un peu les mêmes années puis les mêmes bureaux. Fait que t'as les mêmes plans en contre-plongée avec les grandes rangées de néons puis les journalistes qui répondent au téléphone, ce qui arrête au bec, stressé. Puis tu sais, c'est sûr qu'il y a un côté de moi qui, comme, je trouve ça cool de voir des grosses salles de rédaction de presse super occupées puis stressées. Puis tu sais, comme à l'époque où justement, maintenant où les nouvelles veulent plus rien dire, les journaux tombent à gauche puis à droite, puis tu sais, le président tweet n'importe quoi, tu sais. Puis c'est un peu ça le problème, en fait, aussi, c'est que c'est comme un film de notre temps pour un problème actuel. Mm-hmm. Puis le film s'adresse vraiment à Trump et à son fanbase. Tu sais, c'est vraiment un film en réaction à ce qui se passe en ce moment dans la politique américaine et aux grosses instances qui veulent justement affaiblir les journaux, la presse, même la liberté de parole. Tu sais, c'est pas pour rien là, que c'est vraiment une réponse à fond aux toutes les fake news que Trump envoie. Puis ce qui est fascinant dans ce film-là, en fait, c'est de se rendre compte que même à cette époque-là, tu sais, même les plus gros débats viruleux se faisaient quand même dans un certain respect, puis tu sais, avec une certaine classe, alors que c'est pas du tout le cas en ce moment, là, de ce qui se passe de l'actualité. Mais en même temps, ça donne une drôle d'énergie au film parce que j'ai vraiment l'impression que le film est beaucoup trop propre et sage pour ce à quoi il s'adresse. T'sais. Dans le fond, il parle à un public de convertis. Puis Trump lui-même, il a un peu blasté Meryl Streep après qu'elle ait fait un discours un peu contre lui. Je me rappelle plus quel gars-là, il y a un an. Là.
C'était au Globes, l'année passée.
Au Golden Globes. Et puis il l'avait qualifié, de overrated, là, d'actrice surévaluée. Ce qui est un non-sens. C'est comme une des plus grandes actrices de tous les temps. Là.
Comme pas mal ce que tout Trump dit, là, finalement. Là.
Ouais, c'est ça.
Mais ça fait que je trouve que, dans le fond, Spielberg utilise peut-être pas les bons outils pour s'attaquer à ça, parce que les fans de Trump, déjà, ils iront pas voir ce film-là, parce qu'ils sont convaincus que c'est la propagande de gauchistes intellectuels, tu sais, qui se masturbent, etc. Et masturbation intellectuelle, là, dis-je bien. Et pour ceux qui sont déjà de gauche un peu, ben ça fait un film qui est bien, mais tu sais, un peu comme un Spotlight, c'est comme, c'est efficace, tout ça, mais... je trouve qu'il manque un petit brin de folie dans le film pour vraiment en faire de... Parce que là, en plus, il a gagné comme un prix. Là. Il a gagné le prix du NBR, meilleur film.
Non, là, il est frontrunner. Les sites de pronostics d'Oscar le mettent là, officiellement. C'est le pion à battre. Là. C'est vraiment... Qu'il va gagner le meilleur film. Là.
Mais ouais. Si ça gagne, je pense que c'est uniquement politique. C'est une espèce de statement qu'on fait. Parce que, honnêtement, ce film-là, je trouve qu'il est... Il est bien, c'est bien, là, c'est bien réalisé, puis même que j'aime beaucoup, il y a un petit côté science-fiction au film, là, c'est quasiment, vu qu'il parle d'un passé qui n'existe absolument plus, où la presse avait comme un pouvoir et une nobilité, une noblesse, là, ben, on dirait que ça fait un film dystopique à l'envers, t'sais, c'est comme, c'est une ancienne dystopie, puis il y a vraiment des plans là, avec des espèces de boulevards, puis t'sais, des gens au téléphone qui sont un peu paranoïaques parce qu'ils ont peur d'être sous écoute. On dirait un peu quasiment qu'on est dans THX 1138 à un moment donné là, de George Lucas. Fait que c'est vraiment un drôle d'objet, mais je trouve qu'il ne vous pousse pas assez loin, c'est peut-être ce côté-là un peu sci-fi qui est comme assez intéressant. Fait que c'est ça, ça en fait pas un film qui est indigne d'intérêt, mais honnêtement, c'est tellement pas un gros morceau par rapport à tout ce qu'il y a en ce moment au cinéma. Tandis que s'il était sorti peut-être fin septembre, puis il avait un peu comme amassé du buzz au fur et à mesure, je pense qu'il serait en meilleure posture parce que là, je le vois. Tu sais, puis si c'était pas Spielberg qui l'avait signé, là, est-ce qu'on serait vraiment aussi clément?
Ouais,
je pense
c'est ça,
pas.
C'est
là,
ça.
Parce que, mine de rien, sa filmographie à Spielberg est quand même assez folle. Puis tu sais, je le mets probablement pas dans son top 10 de films, là, ce film-là. Là.
Ouais, puis après, Bridge of Spies, qui devait être sûrement dans le même registre, là, aussi, là.
Je l'ai pas vu encore, malheureusement, Bridge of Spies. Okay. Mais moi, je le compare beaucoup à Lincoln ou Spotlight. Là, des films qui sont...
Ben, c'est comme cohérent. Il est comme dans une phase qui semble cohérente dans sa carrière, à tout le monde.
Ouais, mais attends, Ready Player One, dans une couple de mois,
ouais,
là,
ben,
ça
c'est
va...
ça, c'est ça.
On va revenir
Mais c'est un peu trop sage comme film, c'est ça. C'est que c'est trop sage pour la base à laquelle il s'attaque, tu sais. Comme t'sais... si tu veux vraiment t'attaquer à Trump, faut que tu prennes ses outils. Puis c'est toi, Pascal, qui me disais ça, tu sais. Finalement, le truc le plus efficace face à Trump dernièrement, ça a été le rap d'Eminem, tu sais, parce que...
Ouais, clairement.
Tu sais, faut que tu utilises les mêmes outils qu'eux pour, comme, pour pouvoir les convaincre, là.
Ouais, c'est en 2017 là, le truc anti-Trump le plus le mouchefleur là qui a fait le plus de vagues là, c'est ça, c'est le freestyle d'Eminem là, parce que la fanbase, c'est, tu sais, puis en plus même il la met là, il dit, tu sais, on met la ligne est là, puis je vous affiche mes couleurs à 100%, puis je vous veux pas si vous êtes du bord de ce bandit là. Bon, bref, mais c'est ça, donc il s'adressait effectivement à une fanbase, tu sais, qui appuyait Trump. Donc déjà ça, c'est plus courageux que ce que peut-être on pourrait dire là, ben justement d'être de gauche, ah ben ça va pas si loin, puis c'est pas si intéressant. Mais non, dans le fond, c'est probablement la chose la plus intéressante parce que ça parle avec le langage pour les gens. Est-ce qu'un film comme ça le fait? Peut-être pas. Mais moi, en fait, c'est ça. Que Spielberg est capable de réaliser un film, ça, on le sait. Les acteurs qui sont là dans le film, évidemment, qui vont être bons. Là. Je veux dire, je peux pas croire que Meryl Streep fait un dot. Là. Mais au fait, moi, est-ce que la grosse question, c'est est-ce que le film est trop pamphlétaire? Est-ce que le film est trop comme... implose un peu dans son mandat? Ou pas tant que ça, comme...
Ben, c'est à cheval. Tu sais, je te dirais que ce film-là, peut-être dans 5-10 ans, quand on va passer à une autre ère que celle de Trump, ou peut-être l'année prochaine, mais tu sais, je pense pas que c'est un film qui va super bien vieillir. Je pense que c'est un film qui a un message affiché, puis il y a un peu trop de wink-wink, tu sais, un peu trop de paroles, puis de références à des discours que Trump a eu, genre, puis on les reconnaît, puis t'es comme, haha, très clever. Là.
Est-ce qu'il y a une scène comme la Bridge of Spies où ils construisent un mur?
Non.
C'était méta, hein.
C'était pas mal bon, Pascal. Je te donne celle-là. Donc, c'était notre point de vue. On se laisse sur la bande annonce de poste.
Mais notamment, il y a aussi tout un côté qui est cool, en fait. C'est qu'il filme souvent Nixon, en fait, puis il va vraiment le filmer avec un immense téléobjectif de loin, de dehors, la Maison-Blanche. Et avec le son vraiment étouffé, parce que lui, c'est comme s'il enregistre au téléphone. Puis là, on sentait vraiment comme dans l'intro de Conversation de Coppola, ouais, avec une espèce de ultra zoom, puis son un peu qui crépite. Là. Puis ça, je trouvais ça cool aussi. Il y a comme quelques bonnes inspirations dans le film, mais trop peu peut-être pour porter le film au complet. Ça reste un film qui est bien, mais c'est ça. Avoir le line-up qu'il y a au cinéma en ce moment, je le mettrais vraiment pas dans mes priorités. Là. Et parlant en fait de films d'Oscar puis qui ont du buzz, peut-être que celui-là il est peut-être un peu retombé. Mais vous les gars, vous avez vu The Killing of a Sacred Deer de Yorgos Lanthimos?
Oh oui.
Ouais.
Qui je pense est encore à l'affiche ou ça fait quand même longtemps qu'il était à l'affiche là. Et
il était à l'affiche cette semaine. Ben là depuis vendredi que ça a rotationné, peut-être qu'il ne l'est plus. Mais moi je l'ai visionné la semaine passée en salle, donc ouais.
La dernière fois que Lanthimos nous a quittés, c'était pour The Lobster avec Léa Seydoux qui dansait du techno avec des cochons dans la jungle.
Ouais, puis Rachel Weisz qui
s'est... Dans la forêt.
Oui, en fait. Puis comment il se compare à The Lobster? Ben, il est en cohérence aussi, il est en continuité, moi, je pense. Puis, mais tu sais, Lanthimos, ben, donc là, il a vraiment... Est-ce qu'il a juste fait Canine, The Lobster, puis est-ce que je me trompe?
C'est il en a fait trois. Troisième, il a fait Dog Tooth,
C'est une grosse carrière, là, quand même. C'est des chapeaux de roue, quand même, beaucoup.
Ouais, c'est assez fort. C'est un 3 sur 3. Mais moi, je trouve en plus que celui-là, Killing of a Sacred Deer, il est peut-être un petit peu plus accessible que The Lobster. Il est moins crazy, tu sais. C'est une histoire de blackmailing, là, d'intimidation, puis...
De chantage, ouais, c'est ça.
C'est ça, puis qui mêle ça avec un drame familial, puis le côté surréaliste arrive à travers le film, mais pas genre en partant, tu sais, de Lobster, c'est weird, premier plan, première seconde, c'est weird, tu sais que t'es dans une autre planète, puis ça, c'est peut-être, tu sais, celui-là, c'est peut-être le jeu des comédiens qui est super froid, c'est le pacing des dialogues, c'est la façon que les personnages s'expriment, mais c'est pas nécessairement au niveau de narratif que de base
non,
c'est
exactement.
Weird. Ça devient weird à travers le film. T'sais.
Mais exactement, puis c'est peut-être pour ça que je trouve que c'est probablement sa meilleure mise en scène à ce jour, peut-être pas son meilleur film.
By the way, je vais juste vous corriger les gars parce que j'ai vérifié pendant que vous parliez. Il y a également Alp qu'on oublie toujours en 2011.
Ah oui, c'est vrai.
Également Kinetta en 2005. Il a fait comme quelques autres films aussi avant. Ouais, donc, okay, mais c'est comme ça, son troisième peut-être grand public ou remarqué. Peut-être. Là.
Plus remarqué. Ouais, mais oui, Alp, t'as raison. C'est vrai, on a tellement tendance à l'oublier. Bon, excusez-nous. Mais je pense quand même. Donc, j'ai pas vu ces deux-là. Là. Par contre, je peux juste les comparer peut-être à ces deux autres gros canons, là, j'imagine. Donc, est-ce que c'est son meilleur film? Ben, moi, j'ai comme un soft spot quand même, toujours pour Dogtooth, pour des raisons différentes, mais est-ce que c'est sa meilleure mise en scène? Moi, je le dirais un gros
très
affirmatif. Vraiment, quand on sort de ce film-là, on le compare, puis c'est même pas bizarre de le comparer à Kubrick ou à Haneke. Il y a quelque chose... Ben, Kubrick, je pense que ça saute aux yeux même. Il y a comme quelque chose d'affiché, il y a quelque chose de... Tu sais, les corridors symétriques, un certain type de cadrage, un certain type de contrôle très froid, très austère aussi, à tous les éléments de la mise en scène, du son, qui sont pas sans rappeler Kubrick, mais au niveau thématique, on est complètement ailleurs. Il y a comme un certain sadisme chez Lanthimos, mais qui n'est pas vraiment pas le même genre de sadisme que ce qu'un Aronofsky peut faire, que ce que justement un Michael Haneke peut faire, que un Lars von Trier peut faire. Mais il s'inscrit dans cette lignée-là, tu sais, au niveau thématique. Revenons en arrière. Donc, c'est quoi un peu The Killing of a Sacred Deer? C'est Colin Farrell, qui campe le personnage principal, est un chirurgien là, reconnu et tout ça, qui s'est lié d'amitié. En tout cas, ça commence, puis c'est déjà un peu mystérieux, puis c'est déjà très entamé. Il y a une relation avec un jeune homme.
C'est assez difficile à décrire parce que, tu sais, tu découvres la relation, tu sais, c'est comme plein de spoilers, dans le fond, là, parce que
c'est pour ça, je vais
c'est pas vraiment difficile d'en parler sans dévoiler, parce que le plaisir, c'est aussi de découvrir c'est quoi cette relation-là, puis c'est...
Clairement.
Puis,
C'était déjà le cas aussi, ça, avec The Lobster, ça. Le fun du film, c'était vraiment... Tu sais, le titre était quand même accrocheur aussi, tu sais, le homard. Mm-hmm. Puis, justement, de découvrir un peu ce monde-là, un peu farfelu, tu sais, il y a comme... une petite touche de fantaisie, mais ça ressemble somme toute pas mal à notre monde qu'on connaît.
Ben c'est ça, c'est ça. Puis, mais c'est pour ça que je trouve que The Killing of a Sacred Deer est probablement sa meilleure mise en scène, parce qu'il n'y a pas besoin d'un concept pour nous faire complètement plonger dans un univers décalé, surréaliste. Mmh. C'est strictement avec la façon comment ils dirigent les acteurs, la façon comment ils codent, comment le montage, des lignes de dialogue, ils vont parler de leur montre. Tu sais, il y a une première scène de dialogue où il y a comme deux personnages qui parlent de leur montre, puis on comprend déjà qu'on est dans un monde un peu comme en marge, tu sais.
Ouais, puis l'acting, on dirait qu'ils sont dirigés par Wes Anderson, par bout, là. Mais tu sais... Mmh. Genre, mettons, Wes Anderson suicidaire, mettons, là.
Ouais,
mettons,
c'est ça, mais
même, là, c'est vraiment la version, le frère jumeau dark de... Parce que c'est juste, tout est dry dans les dialogues.
Ouais, absolument.
C'est comme, on dirait qu'ils n'ont pas de... Ils n'ont pas d'émotion,
mais
en même
temps... Ils sont
pas
incarnés,
C'est ça, il y a une absence, là, dans la façon qu'ils sont dirigés, puis c'est vraiment intéressant, là. Moi, j'aime vraiment ça. C'est sûr, pour un public plus large, ça peut peut-être être un peu rushant, là, quand t'es pas habitué à un ton comme ça. Ouais. Mais c'est vraiment, moi, ça me fait vraiment penser à ça, là.
Ben, clairement, tu sais, où on revient quasiment à Bresson ou, tu sais, à Kikoris Maki, tu sais, il y a certains metteurs en scène qui travaillent un peu sur ce genre d'acting-là, finalement, du genre de non-jeu, un peu, qui crée comme un peu un inconfort, on dirait. On aimerait que le personnage réagisse d'une autre façon tout le temps. Fait que t'es comme, ben voyons. Fait que ça déstabilise, on dirait, constamment le spectateur. Puis tout est là dans ce film-là pour déstabiliser.
C'est un peu le cas de Grave aussi, là. Tu me fais penser de la manière que, justement, tu sais, il y a des événements extraordinaires qui se passent, puis les gens, on dirait que... T'as juste le goût de les shaker et faire comme, ben, mettons, réagissez, qu'est-ce qui se passe?
Ouais, c'est ça.
Pourquoi il n'y a pas plus de genre d'emportement?
Ben, absolument. Mais en fait, c'est que, sans révéler plus, en fait, parce que c'est ça, donc, de cette relation-là, le jeune homme va en venir à faire du chantage à la famille et à menacer, finalement, les proches du personnage principal, donc le chirurgien en question. Je pense que je vais rester vague comme ça, là, au niveau du synopsis. C'est pas aussi sans rappeler, c'est drôle, mais vraiment dans des registres différents, mais je pense qu'une comparaison assez drôle qu'on peut se permettre de faire, c'est avec Un problème d'infiltration, cette année, de Robert Morin aussi. Tu sais, l'homme qui, d'un apparent succès, est en apparence intouchable, mais qui se fait finalement prendre... par, comment dire, que sa prison de verre, finalement, devient un peu ce qui l'étouffe, puis que, en tout cas, je vais rester vague, là, mais c'est quand même des comparaisons drôles à faire. Maintenant, il y a quand même certains petits bémols pour moi. C'est que le film, au fait, va, donc, dans la première demi-heure, il se passe pas grand-chose, puis c'est vraiment correct. On dirait que tout est étrange, juste comme je disais, par des éléments de mise en scène, et ça, c'est génial. On dirait que t'as tout le temps l'impression que quelque chose va arriver, on sait pas quoi, et quand la chose en question arrive, c'est là que je trouve que finalement, le film devient un petit peu plus linéaire, un petit peu plus conventionnel.
Ouais, bon, ouais, ouais.
Conventionnel avec des gros guillemets, là, quand même. Là,
ouais, c'est pas tant conventionnel.
Non, c'est vraiment pas tant conventionnel, mais tu sais, c'est là où, OK... la logique a été instaurée, puis on peut un petit peu se permettre de comprendre rapidement, OK, le film va s'en aller là, et le film, comme de fait, s'en va pas mal là. Bon, avec quand même beaucoup de surprises au détour, mais c'est comme si, parfois, l'Antimos, il déroge de ses propres règles, comme il y a une scène, par exemple, où Colin Farrell, il se met à pleurer, tu sais. Puis c'est une des scènes les plus faibles de tout le film, parce que t'es comme, justement, on dirait que tout le long du film, il y a une genre de retenue, il y a comme des règles qui sont instaurées dans cette espèce d'univers surréaliste-là, puis là, tout à coup, tu le fais réagir, ou à Manny, il pogne les nerfs avec le gars, ou le jeune, puis là, t'es comme, mais ah, OK, donc il a le droit de pogner les nerfs un peu, puis on dirait que moi, ça me ramenait dans ma tête constamment, j'étais comme, OK, ben donc, on est où, on est dans quel univers, comment je dois relate à cette histoire-là, est-ce que je dois m'identifier comme normalement, ou pas, en tout cas, c'est vraiment curieux, le ton du film. Ça, on dirait que ça m'a un peu déstabilisé puis flappé dans le mauvais sens du poil, là, si on veut. Mais j'insiste sur le fait, là, quelle mise en scène. Puis ça, c'est du cinéma, là. Tu sais, bordel, je veux dire, si vous voulez une expérience, puis on parlait bien gros de télé tantôt, puis c'est bien génial, mais comme ça, c'est du cinéma, puis ça ne peut exister qu'au cinéma.
Ouais, comme tu dis, une expérience, c'est comme... Mm-hmm. Faut que tu t'abandonnes au film pour vraiment triper sur ce genre de film-là, tu sais. Faut pas que t'arrives, puis que... Tu sais, parce que, oui, là, il y a de l'interprétation à faire, il y a du symbolisme, mais tu sais, assis-toi, puis laisse-toi porter par ce trip-là, puis c'est là, je pense, que tu peux apprécier du cinéma comme ça, là.
Exact.
C'est pas en over-réfléchissant tout ce qui se passe que tu vas apprécier, là. Un peu comme du Lynch, viscéral. Dans un sens, là. Ouais. Tu sais, où, genre, si tu te mets à trop analyser du Lynch, ça devient juste lourd, puis t'as pas de plaisir, là. Mm-hmm, mais là, tu te laisses... Tu te laisses porter par ce trip-là, puis c'est vraiment le fun.
C'est ça, c'est qu'il est pas sensible. C'est pas obligatoire qu'il y ait nécessairement une logique, puis des explications, puis des trucs, tu sais. Puis moi, ça, en fait, ça me fait. J'ai que vu de Lobster, mais tu sais, ça fait aussi penser par la bande au cinéma de Quentin Dupieux, tu sais. Puis c'est comme. Mm. On dirait que c'est un cinéma qui est facile, justement, de regarder de haut, tu sais, tout ce qui est du registre de l'absurde, en fait. Puis de se dire que, tu sais, c'est juste n'importe quoi, puis tu sais, moi aussi, je pouvais... Tu sais, l'espèce de, comme, moi aussi, je pourrais faire ça facilement, tu sais. Tu regardes, mettons, une toile de Pollock, là, puis t'es comme, c'est facile de faire ça, tu sais. Ouais. Mais comme, ben, vas-y, tu sais, fais-en, tu sais, je veux dire, c'est un style. Puis c'est justement, c'est d'autant plus difficile, peut-être, de justement, de capter l'attention du spectateur pour sur la durée du long-métrage, lorsqu'on est dans un registre qui est non réaliste puis qui tend vers le farfelu ou l'absurde. T'sais.
Oui, c'est ça, mais par contre, ça inflige vraiment le respect dans The Killing of a Sacred Deer. Je me disais vraiment là, comme, my God, pour soutenir en haleine avec vraiment pas grand-chose dans la première demi-heure, comme il faut vraiment être en maîtrise de son langage cinématographique, mais à un niveau comme master, là, un niveau de maîtrise de M majuscule. L'Antimos peut aller là. C'est au niveau thématique, des fois, un petit peu, que comme... Tu sais, oui, il y a du symbolisme biblique, là, ça, je pense que, tu sais, toutes les histoires
de sacrifices... Ouais, c'est un peu dans ta face, bon, là.
Ancien Testament, là, et tout ça, bon, c'est un peu dans ta face, là, on n'en dira pas plus. Oui, il y a tout ça, quand même, mais au final, c'est un petit peu plus... Je me demande s'il est un petit peu complaisant dans ces moments what the fuck, quand même. T'sais, c'est un petit peu poseur dans certains moments. Il va très loin, puis des fois, tu te dis... est-ce que c'est un peu vulgaire? Tu sais, vulgaire au sens... Pas au sens vulgaire, au sens premier, mais est-ce que c'est un peu comme... Un peu facile, finalement, de juste choquer en faisant des scènes qui sont fondamentalement choquantes. La question se pose, mais... Tu sais, les gars, on avait eu une bonne discussion sur Mother. Moi, j'avais vraiment pas été dans...
C'est exactement ça que je pensais.
Je pensais pas dans... à ça aussi depuis tantôt.
Ben oui, c'est des films comme ça. C'est des films sujet. C'est des films qui brassent, c'est des films qui ont des couilles, puis qui choquent, puis qui... T'sais. Mais pour moi, ça a été franchement plus concluant une expérience comme The Killing of a Sacred Deer. Il y a quelque chose de plus cérébral.
Pour Jennifer Lawrence aussi.
Ouais, il n'y a pas de Jennifer Lawrence aussi peut-être. Mais il y a quelque chose de cérébral dans ce film-là, mais c'est cérébral évasif. C'est comme, je ne sais pas exactement sa réflexion, où est-ce qu'elle est, puis qu'est-ce qu'elle me dit. Mais clairement, il y en a une. Genre, c'est évident qu'il y en a une, disons.
Ouais, pis c'est le fun qu'il en parle pas, parce que on en a parlé un peu là entre nous là, mais Aronofsky qui est revenu dans ses interviews puis tout là, c'était comme, c'était ça ma joke de Jennifer Lawrence là, mais c'est juste que là ils sont plus ensemble là, puis comme il est en train de la faire virer folle parce qu'il était tellement piste que son film lève pas, que genre le soir il faisait juste parler de ça avec elle, tu sais, parlait juste de Mother puis de comment genre ça il avait pas été compris. Pis là, plus ça va, pis plus que ça me fait chier, parce qu'Aronofsky, j'aime ça, pis là, il est comme à la soul, là, il est comme pédant, pis ça, en tout cas.
Ouais, mais ça, c'est extra film, faut pas que ça t'empêche dans
ouais, je sais. Non, je sais, mais.
Mais les comparaisons entre les films, c'est deux films vraiment différents, mais les comparaisons, on dirait qu'on a juste fait le comparer, là, ce film-là. Il est bien dur à approcher, c'est un objet, là.
Juste un conseil à Yorgos, parce qu'il nous écoute, là, Yorgos. Ouais. Fais pas d'entrevue pour expliquer ton film. Fais juste pas ça.
Puis le meilleur là-dessus, c'est vraiment David Lynch. C'est lui comme il fait la promotion de Twin Peaks là, puis genre il parle de la météo puis d'une table qu'il est en train de construire, puis de genre j'ai bu un bon café aujourd'hui. Puis tu sais, c'est comme Puis justement, il prête, tu sais, dans le fond, lui, je pense aussi que c'est très ludique là, de la part de David Lynch. Il s'amuse justement à pouvoir discuter un peu n'importe quoi, sachant très bien qu'il n'avait pas du tout l'intention de dévoiler quoi que ce soit. Là,
exactement.
Puis justement, on perd pas cette espèce de mystique à propos de l'œuvre, tu sais. Puis moi, je suis comme toi, Rémi, des fois, il faut que j'arrête de lire certains cinéastes parce que j'ai l'impression que c'est comme... C'est ce que je voyais dans leur film, peut-être que finalement, c'est moi qui l'ai comme un peu... qui est quand même trop. Finalement, c'est peut-être beaucoup plus bête que ce que je croyais.
Mais, ben, tu m'avais envoyé l'entrevue avec Aronofsky, là. Ça, on avait parlé quand on avait vu Mother, puis j'avais voir l'entrevue, puis ça m'a détruit un peu, je vais te dire, Paul, parce que je l'écoutais parler, puis j'étais comme, « Hey, ta gueule, là, tu peux pas dire ça en entrevue. T'as juste l'air con, man. T'as juste laissé vivre ton film, puis c'est tout, là.
Ouais, »
Là, il avait juste l'air pédant, là, puis il avait l'air vraiment d'un...
C'est ça. Non, mais oui, non, exact. Mais en laissant vivre son film, il peut devenir potentiellement un petit cult classique. Il peut devenir un film qui, en étant un genre d'objet incompris, puisse durer dans le temps, puis avoir sa légion de fans fidèles. Puis non, ce sera jamais mainstream, puis c'est pas grave, mais tu sais, il va avoir une niche de fidèles, puis c'est correct.
T'sais. Là, c'est trop expliqué aussi, tu sais. Là, c'est comme, of course, bon, mais ben, c'est Mother Earth, c'est Dieu, puis c'est tout. Tu sais, là, juste comme, il a juste dit exactement c'est à propos de quoi le film.
Mm-hmm.
Ça aurait été le fun que, tu sais, c'était comme trop évident que c'était ça, puis j'aimais ça comme me dire, essayer de trouver d'autres interprétations sur le film. Mais il a juste dit tout cuit ce que c'était, puis c'est super simple, pis c'est juste ça. Mother Earth, Dieu, that's it, that's all. C'est comme...
Ouais, okay, en même temps, ensuite, on peut trouver plus qu'une signification dans n'importe quel film, puis surtout...
Mais tu sais... C'est quand même une petite déception, tu sais. Juste que le cinéaste le dise directement, c'est comme, bon, ben, il a voulu faire ça, fait qu'on dirait que c'est moins le fun de chercher plus loin quand il te laisse pas, toi-même explorer les possibilités, tu sais. J'avais plus de fun après l'avoir vu à faire comme, tu sais, à analyser tous les petits éléments parce que là, c'est comme, ah, ok, c'est A, B, C, D, E, F, G, c'est G. J'ai juste le plan de son film, je sais exactement comment le réfléchir, puis tu sais.
Mais 2017, c'est une drôle année, man. C'est comme... Puis en plus, tu sais, si Aronofsky est juste pédant, puis orgueilleux, puis vantard, tant mieux, parce que, tu sais, honnêtement, là, nos héros tombent un après l'autre. Là, 2017, ça va vraiment... Je pense que ça va rester en histoire comme, tu sais, une anus horribili. Puis en même temps, c'est nécessaire d'avoir eu cette espèce de purge de tous ces gens. Mais tu sais, comme, là, justement, on vient d'apprendre, il y a quelques heures à peine, là, que c'est Bryan Singer qui a été comme retiré du plateau de Freddie Mercury, du biopic Bohemian Rhapsody, parce qu'il y avait des clashs sur le set, puis il était accusé de bien des choses. Pour l'instant, ça reste encore comme s'il n'y a rien de confirmé, fait que je veux pas nécessairement trop épiloguer là-dessus, mais tu sais, c'est vraiment pas le premier en 2017. Il y a eu vraiment plein de cas puis d'accusations. Ridley Scott qui reshoot avec Christopher Plummer quelques semaines avant son film.
C'est une hécatombe.
Puis c'est, tu sais, dans un sens, c'est bien, là. C'est, en fait, dans tous les sens, c'est bien, là. Faut, là. Il y a aucun problème, là. C'est parfait, là.
Mais tu fais quoi, mettons, avec le film de Woody Allen qui sort dans une semaine, là, tu sais, c'est un peu bizarre, là. C'est un peu étrange, là.
Bryan Singer, en plus, c'était pas mal connu avec nos amis qui ont travaillé sur les X-Men, puis, tu sais, puis on a entendu toutes sortes d'histoires, là, sur Bryan Singer, c'est pas genre, tu sais, on n'était pas là, là, mais c'est pas comme une personne, là. C'est genre plein de monde qui en ont parlé, puis c'est un secret, mais qui n'est pas un secret. Là.
C'est des secrets polichinelles. Ça, je pense qu'il y en a encore beaucoup, mais tout ça, c'est un après l'autre. Et puis c'est drôle parce que off record, j'en parlais avec toi, Paul, pas plus tard que cette semaine, mais tu sais, à Toronto, à TIFF, là, j'ai à un certain moment dans mon horaire, c'était soit I Love You Daddy, c'est ça le film de Louis C.K. où je suis allé voir finalement quelque chose d'autre, mais j'ai passé vraiment vraiment proche d'aller voir le film de Louis C.K. Puis justement, je m'étais dit, ben, j'irai pas voir le film de Louis C.K., il va sortir partout, tu sais.
C'est ça.
Là, il est nulle part, man, il a été cancellé, là. Tu sais, le film n'existe pas.
Il va être tough à trouver, là.
Il est plus que tough à trouver, là. Il a été, la plug est tirée, il a pas eu la première, puis le film, il est sur une tablette, puis fermé à double tour, là. Ce film-là, il existe,
tu sais. Imagine.
Les gens l'ont vu à TIFF, puis c'est tout, là.
T'aurais pu le voir, puis finalement, tu peux, genre, tu vas peut-être pouvoir jamais
le voir. Non, mais c'est ça. C'est peut-être un film que ça va prendre des années avant que. Qui reviennent sur l'échiquier, là.
Si vous êtes vraiment curieux, puis c'est ça, j'encourage pas du tout ça parce que comme la légalité de la chose est vraiment grise.
Piratable.
Mais en fait, c'est parce que des critiques avaient déjà eu des screeners, tu sais, comme mettons pour les top 10 puis ça, puis juste pour faire des critiques. Fait qu'il y a quand même des copies qui existent du film là, qui ont circulé. Puis j'en ai vu une notamment là, sur. Il y avait un article là-dessus, il y a une copie sur eBay en ce moment, ou peut-être qu'elle a déjà été retirée à l'heure où on parle, où le podcast va être publié. Mais il y avait une copie qui se vendait genre 400$. Tu sais, c'est juste comme un DVD.
C'est
là,
fou,
là. Puis sûrement qu'en plus, il y a un watermark dessus, genre Property of, là, tu sais, puis des trucs comme ça, un time code ou whatever. Mais tu sais, c'est ça, c'est que c'est devenu cette espèce d'objet maudit, un peu, dans un sens.
Ouais.
Mais fait qu'une drôle d'année 2017. Puis, mais malgré tout.
Prochain podcast, on y réfléchira comme du monde.
Mais tu sais, en tout cas, j'espère qu'il n'y en a pas trop d'autres. Bryan Singer, tant mieux si c'est confirmé et qu'il prend sa retraite. Là. Mais c'est ça, c'est loin d'être le seul. Puis il y en a sûrement d'autres à venir. Mais ça fait mal. Ça fait mal quand t'es cinéphile et que t'as passé une bonne partie de ta vie à genre t'sais, comme vénérer des gens que finalement il y a un comportement personnel exécrable. Mais d'un autre côté, il y a quand même une partie de moi qui me dit que ce qui fait les stars d'Hollywood, puis ce qui fait un peu la légende de ces gens-là, c'est quand même que c'est des gens plus grands que nature, qui ont des qualités plus grandes que les nôtres, puis des défauts plus gros que les nôtres. T'sais, c'est comme un peu des dieux sur leur Olympe, là. Puis tu sais, comme... Justement, comme on en revient encore à Marlon Brando, qui avait comme violé sur un set. Puis tu sais, c'est comme... Mais en même temps, c'est pas un peu pour ça qu'ils nous fascinent, tu sais. Comme je voudrais jamais être l'ami de Marlon Brando, puis genre, tu sais, je veux dire... J'approuve pas tout ce qu'il a fait dans sa vie.
Anyway, il est mort, Paul, mais... tu peux pas être son ami.
Non, je sais, mais on parle d'un point de vue intellectuel, théorique, là, mais est-ce que ça veut dire que j'arrête d'écouter ses films? T'sais, c'est quand même, il a changé l'industrie à lui tout seul. Là, c'est compliqué tout ça.
C'est
donc,
compliqué.
Mais pour peut-être finir sur une touche plus légère,
on va
aller écouter la bande-annonce de The Disaster Artist de James Franco, qui a vraiment du gros buzz, hein. Puis ça, je suis vraiment curieux de le voir. Puis ça serait tellement drôle.
J'ai tellement hâte, là.
Tu sais, si jamais il est nominé aux Oscars, là... Tu sais, mettons James Franco, meilleur acteur, là, tu sais. C'est comme... Tu gagnes une nomination
Son imitation pour... du pire acteur,
c'est
lui
ça.
Donne une nomination comme meilleur acteur, ce serait mind-blown, là. Ce serait
ça. Puis je trouve ça un peu plate parce que je vais le voir jeudi, là. On enregistre, on est lundi, puis... j'aurais tellement aimé ça en parler. Ouais, je vais faire le programme double. Je m'en suis déjà vanté sur le dernier podcast, mais là, je vais faire le programme double Disaster Artist The Room. Puis moi, c'est comme pas mal le film que j'attendais le plus cette année, là. Comme fan de bad movies, là, c'est un cadeau du ciel, là. J'ai tellement hâte, là.
tu me tear apart, Rémi.
Oh.
Donc, c'était notre point de vue. Mon nom est Paul Andréau, j'étais avec mes collègues.
Et Rémi Fréchette.
Oh, hi, doggy.
Los Angeles, everybody wants to be star. You have to be the best and never give up.
When I get up on stage in front of people, all I can think about is, what if they laugh at me? You, man, you're fearless.
No.
I want to feel that too.
I don't care. I'll do it. No. You and me, we both have this dream.
Yeah, I guess we do.
And we'll be famous. We'll show them.
Watch out, here we go. To be or not to be.
It's not gonna happen for you. Not in a million years.
But after that, this town, Greg, they don't want me.
Wish we could just make our own movie.
A great idea. So there's this guy, Johnny, a true American hero, to be played by me. He has it all. Good luck, many friends, and also maybe Johnny is vampire. We'll see.
This set of the alleyway looks exactly like the real alleyway.
That's right.
Well, why don't we just shoot in the real alleyway?
Because it's a real Hollywood movie.
No, yeah, sounds good.
Okay.
Action!
I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark.
What the f- it doesn't work if you're looking at the camera.
And then this beautiful girl. Anything for my princess. She betray him.
And then this guy, Johnny.
He go crazy. Nobody respect my vision.
You are a villain.
I do this whole movie for you, Greg. You are tearing me apart, Lisa.
Cut.
Why you cut, Sandy? This is great. This is real acting.
If you're gonna writhe around with the dress, maybe do it before you shoot yourself in the head and blow your brains out.
I disagree.
You're really gonna make this thing?
We are going to die together.
Tommy, this is not necessary.
No, very necessary. I need to show my ass to sell this movie.
I think you're aiming a little bit.
I aim what I aim. Just do the scene.
Why is he having sex with her belly button? He knows where her vagina is, right?
Hi, doggy.